Six lettres du kamikaze Mozart à sa fiancée, Mademoiselle Fumika. Première lettre. Nagasaki, le 1er mars 1942. Très honorée Mademoiselle Fumika, très chère fiancée. Votre mère vous a communiqué l'excellente nouvelle. Nos deux familles ont réussi à s'entendre sur tous les points, y compris le mariage. Nos fiançailles sont décidées, j'ai donc hâte de faire votre connaissance. Si l'Amérique n'était pas si éloignée de ma caserne de Nagasaki, c'est bien volontiers que je viendrais vous rendre visite au cours d'une permission. Pour quelques mois encore, l'océan Pacifique nous sépare. C'est pourquoi je vous fais ma cour par correspondance, me réjouissant que vous reveniez en septembre dans notre beau pays pour notre mariage. Dans la poche gauche de ma vareuse, je conserve la photo qui vous représente au piano. Vous êtes très agréable à regarder. Surtout la forme de votre menton et vos cheveux attachés sur le côté. Est-ce la mode parmi les étudiantes de Berkeley? Nous aurions pu nous croiser au conservatoire de Nagasaki. J'ai terminé mes études de violon 2 ans avant vous. Le hasard ne nous a pas réunis. Nos familles s'en sont chargées. Permettez-moi de me présenter. Né en 1917, j'aurai 25 ans le 2 mai de cette année. Sur la photo que je joins à cette lettre, vous me voyez dans mon uniforme de sous-officier de la marine. C'est ma tenue de sortie. Pendant les exercices de pilotage, j'en porte une autre car le blanc est très salissant. Mon père, propriétaire d'une entreprise de paravent, occupe 11 ouvriers et quelques femmes. Vous êtes sûrement passé devant nos ateliers qui se trouvent derrière la gare dans la partie supérieure du parc. Bientôt mon frère aîné, prendra la succession paternelle. Ma sœur, actuellement infirmière dans notre armée, se mariera quand la maison de son fiancé sera terminée. Vous et moi habiterons alors chez mes parents. Dès que le Japon aura gagné la guerre contre les États-Unis, je mettrai sur pied un cabinet de radiologie qui devrait nous permettre de vivre confortablement dans notre travail. Vous serez, j'en suis sûr, une parfaite assistante. Quant à la clientèle, vu les dégâts de la guerre, elle ne devrait pas manquer. Dans ma caserne, le temps qui nous est imparti pour régler nos affaires personnelles est très court, une demi-heure par jour. C'est pourquoi je ne peux me permettre de vous écrire une longue lettre. Je tiens cependant à préciser un point pour que la vie de notre couple ne soit pas assombrie inutilement. Il s'agit de la musique. Comme vous le savez, nos vies se ressemblent sur ce point. Moi-même, je serais aujourd'hui encore capable de vous jouer au moins 6 des sonates de Tartini. Mais je considère désormais que nous devons fixer les priorités. La musique ne saurait redonner à notre patrie la première place qui lui revient. C'est pourquoi, après la guerre, il faudra nous consacrer à la science, voire à la technique, dans mon cas, la radiologie. Votre mère a informé la mienne que vous envisagiez une carrière de concertiste. Malheureusement, je dois vous dire que je ne suis pas de cet avis. J'entends que vous preniez soin de l'éducation de nos enfants. J'en prévois 4. Si possible, 3 garçons. Grâce à votre entraînement de pianiste, vous apprendrez facilement à taper à la machine les rapports des patients. Notre attaque victorieuse contre la flotte ennemie à Pearl Harbor en décembre dernier nous garantit une fin rapide de cette guerre. Dans les plus brefs délais, vous pourrez regagner notre archipel, traversant un océan qui mérite enfin son nom de Pacifique. Ainsi, nous ferons connaissance avant le jour de notre mariage en septembre. Ce n'est pas parce que nos familles ont arrangé notre union que nous ne pouvons pas nous plaire pour de bon. Nos mères sont en train de choisir les vêtements de cérémonie et les accessoires nécessaires à notre mariage. Le zèle que je mets à la défense de notre patrie m'empêche de m'occuper de ces choses-là. J'espère que votre santé est excellente. C'est dans cet espoir que j'appelle sur vous et votre famille la bénédiction de Sa Majesté notre Empereur. Votre fiancé, Tetsuo Tsutsui. Deuxième lettre. Nagasaki, le 2 octobre 1942. Très honorée Mademoiselle Fumika, ma très chère fiancée. Votre mère a fait savoir à la mienne que vous avez subi le sort horrible des 130 000 de nos anciens compatriotes établis aux États-Unis d'Amérique. J'ai entendu à la radio Sa Majesté notre Empereur protester contre cet affront. Si j'avais plus d'une demi-heure par jour à consacrer à mes affaires personnelles, donc à vous, je crois que je me ferais beaucoup de soucis. Heureusement, la maintenance de nos avions me cause assez d'ennuis pour occuper toutes mes journées et une partie de mes nuits. À cause de la guerre dans le Pacifique, l'essence fait défaut et nous devons inventer des mélanges qui ne réussissent pas à chaque fois. La situation devient grave quand, au sortir d'un piqué où le moteur a été coupé, il ne veut plus repartir. C'est ainsi que deux de mes collègues viennent de s'écraser après avoir traversé un nuage, à cause d'un gicleur engorgé. Tant que je n'aurai pas reçu de nouvelles directement par vous, votre sort me préoccupera. Il paraît qu'ils vous ont regroupé, enfermé dans des stades, sur des champs de course, dans des écuries et même des bains publics reconvertis en prison. Le mieux serait que vous trouviez un moyen de fuir pour retraverser le Pacifique. Notre instructeur est d'avis que nous devrions envahir les États-Unis pour venir vous libérer. Si un tel débarquement se faisait, croyez-moi, je me porterais volontaire pour récupérer mon bien. Parfois, aux commandes de mon chasseur zéro, il m'arrive d'imaginer la scène. Vous êtes enfermé dans une tour où vous jouez la nuit, où vous jouez nuit et jour les sonates de Mozart, et soudain, vous entendez un bruit d'avion. Vous vous mettez à la fenêtre, nous nous reconnaissons, vous sautez à mes côtés, et je vous ramène à Nagasaki. J'espère que vous avez confiance en votre futur mari pour vous délivrer des griffes de ces monstres. Je comprends parfaitement que, vu les circonstances de votre enfermement, vous n'ayez pas encore pu répondre à ma première lettre. J'imagine cependant votre satisfaction d'avoir un mari choisi par votre famille à bon prix. Grâce à la photo que je vous ai envoyée, vous pouvez vous habituer à ma présence, comme moi à la vôtre. Je viens de passer mon brevet d'officier. D'ici à la fin de la semaine prochaine, je recevrai un nouvel uniforme. Les pantalons ne changent pas, mais la veste et la casquette. Les permissions ayant été réduites, le photographe viendra à la caserne faire le portrait de notre promotion. Il faut compter 3 semaines pour le résultat. Vous recevrez donc une image qui remplace et annule l'ancienne. Elle devrait vous faire encore meilleure impression. Je porterai cette tenue lors de mon mariage en septembre. J'espère évidemment que vous serez de retour plus tôt. Ce que je vous ai écrit à propos de la musique est assez clair. Il est vrai que, pour vous qui avez continué après votre diplôme de virtuosité, ce sera une nouveauté d'élever nos enfants et de taper à la machine. Moi-même, quand j'ai rangé mon violon, n'imaginais pas pouvoir m'en passer si facilement. Mais la volonté est tout, les sentiments doivent suivre. Les émotions que provoquait chez moi la musique ont failli m'empêcher d'être un bon soldat. Heureusement, la caserne a fait de moi un homme plutôt qu'un musicien. Quand cette lettre vous parviendra, vous voudrez bien répondre aux 2 questions ci-dessous. Premièrement, concernant la présence des frères de votre père au mariage. Ma mère estime que puisque votre père est mort dans le tremblement de terre de 1923 et que votre mère ne s'est pas remariée, il convient d'inviter vos oncles avec toute leur famille. C'est une question financière à propos de laquelle votre avis m'intéresserait. Deuxièmement, concernant la musique qui sera jouée lors de la réception avant le mariage, il est hors de question que je joue moi-même les sonates de Tartini comme le souhaite ma grand-mère paternelle. Seriez-vous d'accord cependant que le père d'un de mes amis, directeur de banque à Nagasaki, les joue? Il s'agit de M. Hirota. Je vous préviens qu'il n'est pas un très bon violoniste, mais l'avantage, c'est sa position qui nous servira quand nous solliciterons le crédit d'installation pour mon cabinet de radiologie. Je ne suis pas loin de me réjouir de lire vos réponses à mes 2 questions. Je souhaite que, malgré la difficile position dans laquelle nos ennemis croient devoir vous maintenir, vous ne perdiez ni le courage ni la foi en la victoire finale que Sa Majesté notre Empereur saura nous apporter. J'appelle sur vous sa bénédiction, dans la certitude que mes pensées patriotiques s'envolent jusque dans votre cœur. Votre fiancé, Tetsuo Tsutsui. Troisième lettre. Nagasaki, le 3 mai 1943. Très honorée Mademoiselle Fumika, ma fiancée bien-aimée. Grâce à la Croix-Rouge, j'ai bien reçu votre lettre datée de Santa Fe le 10 décembre 1942. Elle mérite une réponse sur 2 points que je liquiderai d'autant plus rapidement que la demi-heure par jour qui nous était assignée pour régler nos affaires personnelles a été réduite à 20 minutes. D'abord, la question du baseball. Je suis furieux d'apprendre, au détour d'une de vos phrases, que nos ennemis, non contents de vous avoir enfermé dans un camp de concentration au fond du désert, non contents de vous priver du retour dans votre patrie bien-aimée, non contents de vous tatouer un numéro sur l'épaule, veulent désormais vous apprendre les règles de leur jeu dégénéré, infâme, ridicule, le baseball. Dans les circonstances d'une bonne guerre, je considère comme normal qu'on essaie d'humilier son ennemi, surtout si c'est un homme. Mais là, pour une femme, ils ont dépassé les limites. Je tiens donc à vous communiquer que je suis fier de vous quand vous m'annoncez votre refus de prendre en main un gourdin pour frapper une petite pelote de cuir. L'autre point de votre lettre qui mérite commentaire concerne ce que vous dites de Tartini dont vous prétendez n'avoir jamais entendu parler. Je vous le présente donc, il est né en 1692, mort en 1770. Comme tous les Italiens, il a commencé en s'agitant beaucoup pour une histoire d'amour. Sa conquête était la nièce d'un cardinal. Celui-ci s'opposait à un mariage pour lequel il n'avait pas été consulté. Il paraît qu'en Italie, déjà en ces temps-là, les jeunes gens devenaient amoureux sans la permission de leurs parents. Le cardinal a donc chassé Tartini de sa ville pour qu'il repense à deux fois avant de tomber amoureux. Mais chez les Italiens, c'est comme une maladie. Tartini a passé une année enfermé dans un couvent pour étudier le violon. Dès son retour à Padoue, il est tombé dans le même état amoureux et pour la même femme. Finalement, le cardinal a donné sa nièce à Tartini, qui s'est tenue tranquille pour le reste de sa vie, voyageant peu, jouant beaucoup. Il réfléchissait chaque jour à la technique du violon, aux lois de l'acoustique. C'est lui qui a découvert que lorsqu'on joue deux sons séparés par un certain intervalle, il s'en forme un troisième, pas prévu, mais qu'on entend avec plaisir. Il était persuadé que, sans la science, la musique n'était rien. C'est une idée que je partage, tellement que je préfère désormais la science. Car votre Mozart ou même mon Tartini, on a beau les appeler à la rescousse, ce n'est pas eux qui nous feront gagner la guerre contre les Yankees. Comme il reste encore un peu de place sur cette page pour répondre à votre lettre, j'ajoute encore ce qui suit. J'imagine que la vôtre de lettre a été censurée par vos geôliers et que vous n'y dites pas ce que vous ressentez vraiment pour moi, votre futur mari. J'y ai cherché en vain un mot de satisfaction pour nos fiançailles, pourtant si rapidement négociées par nos familles. Je sais que votre approbation n'est pas nécessaire pour vous épouser, mais la guerre étant ce qu'elle est, et la prochaine lettre n'étant jamais sûre, j'aurais apprécié un petit mot du côté de vos sentiments patriotiques, plutôt que ce ton de femme d'affaires que vous adoptez avec moi. Vous me reprochez de ne pas sourire sur la photo que je vous ai envoyée, comme si un sous-officier de notre aviation devait singer le rictus des acteurs de la propagande Yankee. Êtes-vous déjà contaminé par leur manière ? Croyez-moi, je serais désolé de devoir corriger votre caractère sur ce point. Je n'ai malheureusement reçu qu'une seule photo de moi en officier, je l'ai envoyée à ma mère. J'en ai demandé une deuxième pour vous, mais elle tarde. En officier, je souris encore moins, ça ne serait pas admissible. Mes joues sont un peu plus creusées, nous avons pourtant chaque jour un bol et demi de riz, et chaque lundi du poisson. Mes doigts de violoniste sont enfin devenus des mains de guerrier. Quand mon escadrille monte au-dessus des nuages, j'imagine voir au loin le désert où vous êtes enfermé. Courage, ma très estimée fiancée, je vous délivrerai. La guerre finira, et le dimanche, nous promènerons nos enfants mâles sur la grande avenue du port. J'ai déjà choisi leur nom, et vous les communiquerez en temps opportun. Pour d'éventuelles filles, vous choisirez parmi les noms de notre famille, dont ma mère vous communiquera volontiers la liste. En attendant une deuxième lettre de votre part, j'appelle sur vous la bénédiction de Sa Majesté notre Empereur. Votre fiancé, Tetsuo Tsutsui. Quatrième lettre. Tokyo, le 4 avril 1944. Ma très estimée Mademoiselle Fumiko, chère fiancée. Enfin, une deuxième lettre de votre part. Je vous en remercie, bien que vous n'ayez pas su apprécier ma dernière communication. C'est que la différence est importante entre votre situation et la mienne. Vous êtes aux mains de l'ennemi dans un camp. Mais d'après ce que vous dites, ou est-ce la censure, vous êtes bien nourri, dormez chaque nuit dans un vrai lit. Même s'ils vous forcent à faire des nettoyages, ils ne vous ont ni maltraité ni même violé. Tandis qu'ici, la victoire finale se fait attendre et les villes sont bombardées chaque nuit. Vendredi, c'était le tour de Tokyo où je me trouvais en mission avec mon escadrille. Notre artillerie n'a rien pu faire contre leurs bombardiers qui volent très haut au-dessus des nuages. Peu avant minuit, des dizaines de milliers d'habitants de Tokyo sont sortis des abris, comme nous à la caserne, suite à la fin de l'alerte anti-aérienne. Nous avons compris trop tard qu'il s'agissait d'une erreur. Pendant 3 heures, un mur de feu est tombé du ciel. Depuis la rivière Arakawa jusqu'à la mer, des milliers de bombes incendiaires ont embrasé non seulement les maisons, mais aussi les rues. Le goudron fondait. Ceux qui avaient le malheur de s'y laisser engluer hurlaient de rage sans qu'on puisse les approcher. Les abris étaient devenus intenables à cause des gaz et de la chaleur. Les gens transformés en boules de feu. J'ai vu une mère courir avec un nourrisson sur le dos. Il s'est enflammé le premier, puis elle, torche vivante. Les vents tourbillonnaient, le feu arrivait comme 1000 volcans Hunzen, réveillés en même temps. Notre capitale a brûlé pendant 4 jours. Nous sommes mercredi. Le vent apporte à la caserne l'odeur des fosses communes. Sa Majesté notre Empereur a compté 250 000 habitations anéanties, 1 million de sans-abri. Il a précisé que, désormais, l'heure était venue où, comme les soldats du front, les gens de l'arrière devaient se considérer comme des combattants mobilisés pour la victoire. Il n'est donc plus temps de rêver quand notre vie est prise entre la mort et le déshonneur d'une défaite. Bientôt, je serai appelé pour infliger à nos ennemis la punition qu'ils méritent. Je ferai avec fierté le sacrifice suprême. Au cas où je n'en reviendrai pas, vous voudrez bien vous considérer comme veuve de guerre pendant 5 ans. Que l'honneur de mon éventuelle mort au combat fasse de vous une femme estimée. À propos de la musique, vous m'écrivez que ce n'est pas le moment de l'abandonner et que, quand tout va mal, elle pourrait nous éloigner du malheur, du moins pour un moment, comme une consolation préparée par d'autres humains du temps de leur bonheur. Vous me parlez du sourire de Mozart qui n'a besoin que d'un adagio pour éclater. Vous prétendez qu'il me faudrait reprendre mon violon. Heureusement, je ne l'ai pas à portée de main. D'ailleurs, le temps que je pourrais lui consacrer est proche de zéro. Quant au travail que vous accomplirez dans mon cabinet de radiologie, il n'aura pas besoin de Mozart. Mon escadrille a commencé des exercices nocturnes pour intercepter les bombardiers ennemis au-dessus de l'océan avant qu'ils n'atteignent nos villes. À chaque mission, je perds un équipage et surtout son avion. C'est pourquoi je ferme soigneusement l'enveloppe avant de m'envoler. Mon retour n'est jamais certain. Que Sa Majesté notre Empereur nous protège, nous et la famille que nous lui donnerons. Votre fiancé, Tetsuo Tsutsui. Cinquième lettre. Nagasaki le 15 janvier 1945. Très honorée Mademoiselle Fumika, ma très chère fiancée. Je n'ai reçu de vous que 2 lettres en tout, et n'ai plus de nouvelles directes, si ce n'est par un message de la Croix-Rouge qui annonce que vous serez échangé en pleine mer contre un prisonnier américain. Je ne crois pas que la vie d'un de ces GI vaille autant que celle d'une honnête japonaise comme vous, mais la guerre nous conduit à considérer d'étranges égalités. Si tout se passe comme prévu, vous arriverez donc à Tokyo début février. C'est là que vous devriez trouver ma lettre. Comme elle ne sera pas soumise à la censure de nos ennemis, je puis enfin vous présenter ma vie militaire. Voilà 4 ans que je me prépare à être pilote. Quand j'ai commencé mon service militaire, la formation prévue était de 7 ans. On avait le temps de faire le tour de la question. On apprenait la technique de vol, la météo, jusque dans les détails. On reconnaissait les avions civils du monde entier. On nommait les avions militaires de l'ennemi, sachant désigner leurs points faibles, la manière de les anéantir, par l'avant ou en piqué ou latéral. Désormais, les pilotes partent au combat après 9 mois d'entraînement. Ils reçoivent leur brevet en même temps que leur grade de sergent-chef. Il est même question de réduire encore la formation. Ce ne serait plus que 6 mois. Voilà pourquoi je me trouve instructeur avant même d'avoir terminé mes propres études. Vouvoiement obligatoire, j'ai fini par m'y faire. Surtout entre élèves de l'académie militaire, le moule. Éviter toute fraternité. Pour communiquer, passer par la hiérarchie. Une autre directive s'ajoute désormais à notre entraînement. Toujours courir. Interdiction de se déplacer en marchant. L'avantage, il faut attendre un ordre pour aller d'un point à un autre. Plus besoin de réfléchir. Le corps se fige, puis vient le hurlement du commandant « À la soupe !» On y va en courant. Pour l'arrêt, tapez les 2 pieds par terre. Ne pas se laisser emporter par le mouvement, sinon gare au déséquilibre. Revenir avec la soupe, de nouveau en courant, puis sur place, mais en se dépêchant, ouvrir la gamelle, vider le contenu dans le gosier, fermer le couvercle, attendre la prochaine instruction, ne pas hésiter, jamais, ne penser qu'au geste, se consacrer à l'obéissance. Les dernières questions de la journée, je me les pose le matin au réveil. Quand tout n'est pas encore clair dans ma tête, il m'arrive de rêver de vous, ma fiancée, prisonnière des monstres américains. Je vous imagine fouettée par des soldats sadiques. Puis le clairon retentit, il est 6 heures, le commandant hurle les premiers ordres, foi, générosité, tradition, le devoir de tout japonais, qu'il soit ouvrier ou étudiant, est d'obéir. Une fois terminée la soupe du matin, les aspirants pilotes sont regroupés de 7 à 10 dans la grande halle. Cours théorique. Les questions sont posées par les instructeurs, nous répondons en nous mettant au garde à vous. Nous hurlons d'abord notre nom, puis la réponse. Si elle est inexacte, nous devons nous excuser et rester debout. sinon nous pouvons nous asseoir. Les divergences d'opinion ou les remarques à l'encontre de la hiérarchie ne sont pas tolérées, même s'il est prouvé par la suite que, contrairement à ce qu'a dit l'instructeur, le Messerschmitt est bien un avion allemand et non pas anglais. De 10 à 12 et de 13 à 18, entraînement sur planeur ou sur les Akatombo avions-école peints en jaune. Ils marchent au pétrole mélangé de résine à cause des restrictions de guerre. Parfois, le moteur ne repart plus parce que la résine obture les gicleurs. Je vous ai déjà entretenu de ce problème. Dans l'ordre de mission que j'avais reçu pour me présenter à la caserne, les choses étaient claires. Apporter un sabre et une trousse de toilette. Les objets personnels sont interdits. Surtout pas de livres. Ne pas oublier le Senin Bari, la grande écharpe de soie. Elle doit comporter 1000 points cousus par 1000 femmes différentes. Ma mère a sollicité d'abord toutes ses voisines, puis elle est allée, comme d'autres, dans la rue, avec le fil, l'aiguille et l'écharpe, pour que les passants fassent aussi leur devoir. Il est interdit de porter le Senin Bari à l'entraînement. Le jour où on le passe, c'est qu'on part au combat pour de bon. L'uniforme comporte une veste avec ceinturon, un pantalon de toile, des bandes molletières. Au début, c'était des bottes, désormais le cuir manque. La petite casquette tronconique est frappée d'une étoile. La plus belle invention de notre vie militaire, ce sont les permissions. Dans les trains, elles donnent droit au compartiment réservé aux porteurs d'uniformes. Ces wagons sont à moitié vides, tandis que le reste est encombré de civils. À chaque gare, un petit escalier est placé à la porte des wagons réservé à l'armée. De jeunes lycéennes viennent agiter les drapeaux blancs frappés du soleil levant de notre patrie. Oui, c'était un bel avantage, ces permissions. Malheureusement, elles sont toutes suspendues, sauf en cas de mariage. Après 18 heures, les planeurs et les avions-écoles sont cachés hors de la piste. À leur place, on dispose d'immenses leurres en bois, au cas où les Américains viendraient prendre des photos. Il paraît qu'ils ont très peur de nos super-bombardiers, qui n'existent que sous cette forme-là. Le repas du soir se prend assis. Quand les choses vont bien, nous avons ensuite pour nous toute une demi-heure pour fumer, rigoler, écrire à nos familles. De 19 à 21h30, étude théorique. Il s'agit de vérifier la motivation de chacun, sa compréhension de notre histoire patriotique. Pour moi, qui ai étudié en partie le sujet à l'université, cette mise au point s'avère nécessaire. Mon père, membre du Parti libéral, s'était opposé dès 1930 à nos justes guerres. Il a été envoyé sur le front de Mandchourie, en est revenu gravement blessé. Désormais, il s'agit de bien comprendre ce qui s'est passé avec ce genre de libéraux défaitistes. À cause des Américains, la famille règne dans notre pays. Les Yankees veulent réduire les Japonais en esclavage, comme ils l'ont fait pour les peuples coloniaux et leurs Indiens. La race japonaise est non seulement supérieure aux Occidentaux, mais à toutes les autres races asiatiques. C'est pourquoi j'apprends par cœur tous les hauts faits de notre patrie. À la fin de la leçon de théorie, les aspirants pilotes ont le plaisir de suivre un film. Je vous raconte celui d'hier soir. Une mère a perdu 4 de ses fils à la guerre. Il lui reste le 5e. Il a 18 ans, il va partir à son tour. Elle lui crie « Je suis fier d'avoir donné 4 fils à Sa Majesté notre Empereur. Et toi, ne manque pas de mourir glorieusement. Si jamais tu reviens, ne remets pas les pieds à la maison. » À 21h30, appel général. Juste avant de m'y rendre, je jette un coup d'œil à votre photographie. J'imagine déjà la lettre que je vous enverrai quand je partirai pour la dernière mission, le plongeon final. Dès que je saurai la date de votre arrivée à Tokyo, je demanderai ma permission spéciale pour le mariage, 2 jours en tout. Vous recevrez un laissez-passer pour venir jusqu'à Nagasaki où je vous attendrai. Je tiens à vous épouser avant de partir pour ma dernière mission. Je suis sûr que vous aussi vous réjouissez de l'honneur que je vous fais. Ma chère fiancée, j'appelle sur nous la bénédiction de Sa Majesté notre Empereur, qu'il veille sur votre retour et sur notre combat. Votre fiancée, Tetsuo Tsutsui. Dernière lettre. Nagasaki, le 13 mai 1945. Fumika, ma chère épouse. Ceci est la première lettre que je t'écris depuis notre mariage. C'est aussi la dernière que tu recevras de moi. Demain à l'aube, je pars en mission. Finalement, je piloterai un Oka, qui sera largué par un bombardier. Il ressemble davantage à un projectile avec des ailerons qu'à un véritable avion. Je ne pourrai mettre à contribution mes qualités de pilote que dans les 3 dernières secondes. Je serai quelque part au large de notre archipel, On m'aura désigné un porte-avions ennemi. Je viserai la tourelle d'ascenseur, le point faible qui permet de percer jusqu'au pont inférieur. J'exploserai patriotiquement dans une gerbe de ferraille et de feu. Je garderai sur le front le bandeau blanc que tu as bien voulu embrasser et au cou l'écharpe de soie aux 1000 points préparée par ma mère. Dans cette enveloppe, tu trouveras une mèche de cheveux, celle que j'avais laissée pousser sur mon oreille gauche depuis 3 mois. J'ai mis aussi les rognures d'ongles de chaque doigt de ma main droite, comme le veut notre tradition. Tu m'as déjà dit que tu ne tenais pas au souvenir, arrange-toi avec ma mère si tu ne veux pas garder cette enveloppe de cheveux et de rognures. Je fais mon devoir pour Sa Majesté, pour ma famille, j'aurais voulu ajouter pour toi, mon épouse. Mais depuis notre nuit de noces, je sais que tu n'aimes pas ce genre de sacrifice. Tu m'as dit que tu détestais la guerre et encore plus les guerriers. J'ai fait mine de ne pas te comprendre, j'ai passé outre. Je t'ai forcé, tu as fini par te laisser faire. Tu seras sans doute enceinte de moi. Je sais, ce n'est pas glorieux. Je suis pris dans la guerre. Une ligne droite, sans échappatoire. Même ce que je ferai demain matin aux commandes de Loka, il se pourrait que je le fasse malgré moi. Simplement parce que cette fuite en avant est la seule possible. Je te dois une vérité que je ne voudrais pas laisser disparaître avec moi. Il s'agit de la lettre que tu m'as envoyée d'Hawaï, où tu faisais escale lors de ton rapatriement forcé. La Croix-Rouge me l'a envoyée avec un tampon prisonnière de guerre échangée. J'ai prétendu ne l'avoir jamais reçue. Tu y disais ta volonté de ne pas m'épouser. Tu écrivais que ma photo n'annonçait rien de bon, que tu voulais rester musicienne, jouer Mozart autant qu'il te plairait, ne pas échanger la musique contre un foyer. Ce sont tes mots. Tu prétendais que ce Wolfgang Amadeus te parlait à l'oreille chaque nuit, qu'il t'emmenait à Salzbourg, qu'il savait rire, lui, et que la guerre n'était pas son affaire. Plusieurs fois, j'ai relu ta lettre avant de la déchirer. 1000 morceaux de papier jetés par une fente du cockpit au-dessus de l'océan. Contre ton désir de musique, je n'avais pas d'argument, sauf le mensonge. J'ai préféré la ruse pour avoir au moins une épouse. Voilà 3 ans que je rêvais de cette permission. Tout compte fait, je ne suis pas certain d'aller au paradis. Tu m'as dit que notre vie n'avait pas de suite ailleurs. D'abord, je me suis moqué de toi, mais tu as insinué le doute. Depuis lors, je me demande ce qui arrive à un kamikaze qui manque sa cible. Mettons que je passe à côté du porte-avions et tombe bêtement dans l'eau en criant « Banzai ». Me retrouverai-je quand même au paradis? Ou bien dans un ciel peint seulement en gris, sans femme et glacé? N'aurais-je pas dû préférer la musique à la guerre? Que la volonté de Sa Majesté notre Empereur soit faite. Avant de lui offrir ma vie, j'espère lui avoir laissé un fils. Si c'est une fille dont tu accoucheras, tu choisiras son nom comme convenu. S'il s'agit d'un garçon, puisqu'il t'appartiendra de l'élever, tu lui donneras ce prénom qui rappelle notre dispute à propos de la musique, Wolfgang. Ça ne sonne pas très japonais, tu lui expliqueras pourquoi. Dis-lui aussi que son père, pour son dernier vol, a peint sur le nez de son avion ces 6 lettres d'une écriture étrangère, M-O-Z-A-R-T. À propos, donne-lui aussi mon violon, ça lui évitera peut-être de repartir en guerre. La dernière fois que des ennemis ont voulu envahir notre archipel, un vent divin s'est levé pour les enchasser. Vent divin, kamikaze. Fumika, ma chère épouse, quand tu liras cette lettre, tu seras veuve. Je te laisse seul avec ta musique et signe ton époux, Kamikaze Mozart.
C'était Daniel Deroulet, des extraits du roman Kamikaze Mozart, enregistré le 2 avril 2007 au Bureau à Carouge.